Direct en jeu, la radio insolite. Vous savez qu'on aime bien accueillir des gens qui sont, comme on dit parfois, des gens entre guillemets ordinaires, qui font des choses entre guillemets extraordinaires. Mais alors là, c'est plutôt quelqu'un d'extraordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que attention, là cette fois-ci, j'ai pas n'importe qui. Comme on dit, championne du monde. Bonjour Marion.
Bonjour.
Je sais, j'ai une certaine culture, hein, mais bon, je sais que la culture, c'est voilà. Ça te fait penser à un film en particulier, championne du monde.
Un tout petit peu à la vérité, si je mens.
Et ben voilà. Et justement, on va parler de vérité. Et moi, en allant me balader sur des réseaux sociaux, j'ai vu un truc assez extraordinaire, une franchise totale, une transparence sur quelque chose que tu as écrit. Où, juste, je vais lire les deux premières lignes. Vous êtes en train de tuer ma famille, vous êtes en train de tuer mes amis, vous êtes en train de tuer nos stations, vous êtes en train de tuer nos montagnes. Mais avant, bonjour, à qui ai-je le plaisir ?
Eh ben bonjour, je suis Marion Roland, retraitée, ancienne skieuse de haut niveau.
Déjà retraitée.
Et déjà retraitée, oui. Ouais. Retraitée de la compétition, mais encore dans la vie active.
D'accord, skieuse de haut niveau, originaire de quel club ?
Je suis originaire des Deux Alpes. J'ai été élevée et je suis pratiquement née aux Deux Alpes. D'ailleurs, je suis née à Grenoble, mais 3 jours après, je suis remontée en station. Mm-hmm. Ma maman était monitrice de ski, mon papa pisteur secouriste. Toute la famille travaillait en station dans le milieu du tourisme. Un papy photographe, une tata monitrice, un tonton dameur de piste. Donc voilà, je suis de station.
D'accord, donc il ne faut pas demander s'il y a des circonstances atténuantes qui t'ont fait aller en direction du ski.
Ben oui, un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite.
Oui.
Dès que j'ai su marcher, c'est vrai qu'on m'a mis, sur des skis et puis j'ai suivi le chemin, on va dire, classique des enfants de station. Je suis rentrée au ski club, hein, j'ai fait mes premiers pas avec l'école de ski français. Je suis rentrée au ski club vers 7-8 ans et puis les petites compétitions amenant à des plus grandes compétitions, les résultats aidant, j'ai continué par gravir un peu les échelons, comité du Dauphiné en premier, ensuite accès au premier groupe de l'équipe de France de ski avec les groupes juniors, le niveau Coupe d'Europe. Pour autour de 20 ans, accéder à mes premières Coupes du Monde. Voilà, j'ai passé 17 ans de ma vie en équipe de France de ski.
D'accord. Et le 10 février, il se passe quelque chose.
Et le 10 février 2013, effectivement, je décroche le titre de championne du monde de descente en Autriche à Schladming. Titre qui est le seul titre de ma carrière, mais en tout cas, quelle fierté de pouvoir représenter mon pays et puis de rendre fière toutes les personnes qui m'ont suivi sur ce terrain.
Alors, je ne suis pas d'accord parce que moi, je dispose d'informations qui font dire que tu as été aussi championne de France.
Oui, j'ai été championne de France, mais disons à un niveau international, c'est
d'accord.
Mon seul fait d'armes marquant. J'ai 2 podiums à mon actif en Coupe du Monde de ski, une 2e place en descente et une 3e place en Super G.
Moi j'en ai aucun. j'en ai aucun place, podium pour info. Voilà. Moi j'ai jamais fait.
Oui. Beaucoup de places honorables, mais une seule grosse victoire. Qui résume un peu ma carrière, avec pas mal aussi entrecoupé de blessures diverses.
Oui, non, mais je suis d'accord.
Le lot des sportifs de haut niveau.
Je crois me rappeler, sauf erreur, que Franck Picard, avant de gagner la médaille olympique, avait dit qu'il n'y a qu'une seule place, c'est la première. Et de toute façon, si dans ma carrière, je ne dois gagner qu'une seule médaille, j'en serais très, très heureux. Donc, c'est déjà pas mal quand même ce que tu as fait. Dis-moi.
Ah non, mais j'en suis bien sûr.
Est-ce que naturellement, quand on est dans une école de ski, quand on est dans une station, naturellement, on va à la compétition ? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, un déclic qui t'est arrivé, qui a fait que tu as voulu aller dans cette compétition ?
Petite, en fait, j'aimais beaucoup skier, déjà en premier. J'ai toujours aimé ça. On n'a jamais dû me mettre des coups de pied au cul pour aller aux entraînements de ski. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, d'être dehors, d'être à la montagne, d'être en extérieur et de faire un sport à sensation comme le ski. Donc j'ai pas eu forcément de déclic petite, je gagnais pas toutes les courses. J'étais loin d'être la meilleure. Par contre, c'est vrai que la passion que j'avais pour ce sport a fait que malgré les blessures, malgré les échecs, parce qu'il y en a eu, comme je disais, j'ai pas gagné toutes les courses, donc je me suis quand même accrochée. Cette passion a permis que je garde un peu de fraîcheur vis-à-vis de mon sport et de continuer au final, me rendre compte que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire à un niveau professionnel. Et donc voilà, c'est pas forcément un déclic particulier, c'est vraiment la passion de ce sport.
Et alors, tu dis que tu es à la retraite maintenant, ce qui me fait un peu sourire, parce que tu es quand même, je le dis haut et fort, tu es quand même relativement jeune, si je puis me permettre. Mais que fais-tu maintenant?
Oui.
Tu profites de la vie
Non, malheureusement, j'ai pas non plus gagné des milliers et des cents pour me permettre de vivre d'amour et d'eau fraîche jusqu'à la fin de mes jours. Donc, à la fin de ma carrière, j'ai repris une année d'études au CESNI de Chambéry, en licence de commercialisation de produits et services sportifs.
D'accord.
Ce qui m'a permis de découvrir un peu le milieu du travail et de l'entreprise en travaillant chez Rossignol, qui était un de mes sponsors à l'époque. C'était très intéressant. Ça m'a aussi montré que le milieu de l'entreprise me convenait pas forcément sur le long terme, en tout cas pas tout de suite.
J'adore.
Donc du coup, je suis retournée un peu à mes amours en devenant monitrice de ski. Je suis monitrice de ski à Courchevel.
D'accord.
Et puis ça me plaît énormément de partager ma passion. C'est pas parce que je suis à Courchevel que je fais que de l'exclusif avec des personnes très haut placées.
Oui.
Je fais aussi du cours collectif et voilà, c'est un métier vraiment que j'aime beaucoup, que je fais à fond depuis deux hivers. Et puis j'aime beaucoup ça. Voilà.
D'accord. Alors justement, on en arrive à ce point, c'est que au premier abord, sauf erreur, est-ce que tu continues à faire ça? Parce qu'au premier abord, je crois, sauf erreur, que les remontées mécaniques sont toutes fermées et on se demande même si un jour elles vont rouvrir à cette allure.
Ben, c'est vrai que cet hiver, pour l'instant, on est à l'arrêt total. On peut même pas dire chômage technique parce qu'on est travailleur indépendant, donc quand on peut pas travailler, on travaille pas. Donc,
c'est-à-dire
donc là, pour l'instant,
tu n'as rien.
Bah j'ai les dédommagements de l'État, mais actuellement j'avais quelques droits au chômage avec mes quelques années de travail avec Rossignol, et puis avant pendant ma carrière j'étais comme beaucoup, enfin comme certains sportifs, salariés des douanes.
Oui.
Donc il me restait quelques restes de droits de chômage que j'ai fini par épuiser cette année, et donc du coup bah là cet hiver je ne touche que ce que l'État nous dédommage. Donc j'ai pas à me plaindre parce que en tant que monitrice de ski, j'ai pas de structure, j'ai pas de loyer de structure, mis à part mon loyer de d'habitation, mais j'ai pas de bureau, j'ai pas d'essence comme je monte pas en station. Pour l'instant l'école de ski on n'a pas de frais au niveau de l'école de ski, c'est-à-dire par exemple avec le forfait ou avec la cotisation annuelle à l'école de ski, parce que du coup, tout a été un peu stoppé. Mais voilà, je suis une des... disons que les moniteurs de ski, on ne touche pas énormément d'argent, on touche un dédommagement, mais c'est sûr qu'on n'avait juste pas envie de toucher des aides, on voulait juste travailler, quoi.
Oui, tout à fait. Alors justement, qu'est-ce qui te fait décider d'aller faire une lettre ouverte à l'exécutif, comme tu l'appelles?
Bah, cette lettre, ça faisait depuis un petit peu le début de l'hiver qu'en voyant la situation, ça commençait à tourner un petit peu dans ma tête. Je voyais tous mes amis en station, certains qui ont des affaires, ma famille aux Deux-Alpes, mes amis en Savoie et aux Deux-Alpes aussi, qui se posaient pas mal de questions. Jusque-là, disons que j'avais rien sorti parce que j'attendais de voir un petit peu à quelle sauce on allait être mangé. Le 15 décembre, enfin le 10 ou 11 décembre, on nous annonce que les vacances de février, ce sera plié et ce sera pas possible d'ouvrir. Je me dis bon, ça peut être un moindre mal s'ils nous autorisent à ouvrir que le 7 janvier, comme ils avaient l'air de le dire.
Non, tu voulais, excuse-moi, tu as dit les vacances de février, tu voulais parler des vacances de Noël.
Le 7
décembre.
Les vacances de Noël.
D'accord,
pardon,
oui.
Les vacances de Noël qui ont été annoncées au 11 décembre comme pas possible d'ouvrir. On nous avait donné la date du 7 janvier. Personnellement, je l'avais compris comme une date de possible ouverture selon les conditions sanitaires.
Personnellement, 90% des Français l'avaient compris comme ça. Hein. Il semblerait qu'il n'y ait que Gabriel Attal ou M. Macron qui l'avaient compris autrement.
Voilà, qu'il avait compris comme une date de revoyure.
Oui.
Et donc, quand ça a commencé à fuiter, justement, le 6 janvier, quand Gabriel Attal a commencé à dire que c'était une date de revoyure, là, je me suis dit... Bon bah ça pue un petit peu pour les annonces de demain, donc ça s'est monté un petit peu plus. Le matin même, le matin du 7, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à essayer de mettre à plat tout ce que j'avais en tête. Et même avant les annonces, je crois que je l'ai posté à 15h30 ou 15h30 ou 16h30 sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, j'avais envie d'exprimer...
Excuse-moi, Marion, pour être précis, tu l'as posté le 7 janvier à 16h01, pour être très précis.
Oui, voilà. Et à 15h30, je l'avais envoyé à tous les élus, tous les adresses d'élus locaux que j'avais dans mon carnet d'adresses et que j'avais réussi à trouver sur Internet. Donc voilà, je l'ai envoyé parce qu'il y en avait un peu marre de... Alors, je comprends très bien que la crise est compliquée à gérer, qu'on ne décide pas du jour au lendemain de l'action du virus. Mais en même temps, il faut aussi qu'ils comprennent que nous, les stations de ski, tous les acteurs de la montagne, on n'ouvre pas une station du jour au lendemain. Une saison blanche pour nous, ça serait catastrophique pour beaucoup de commerces.
Exact.
Ça serait aussi catastrophique dans les répercussions, parce qu'une saison blanche, c'est aussi des personnes qui ne réinvestiront pas sur des travaux pour l'hiver prochain.
Donc exactement.
Qui ne feront pas travailler les entreprises de la région. Ça peut être assez. Assez impactant, donc voilà, j'ai beaucoup de copains qui me disent les aides, ça, c'est la croix et la bannière pour les avoir.
Exact.
En plus, ça correspond à rien. On a en station, on a des loyers aussi. On n'est pas tous propriétaires de nos affaires. Souvent même les hôtels sont pas propriétaires des murs, ils louent le fonds de commerce. Tout ça demande à tourner. Sans parler des saisonniers qui jusque-là attendaient peut-être d'être en disponibilité pour les stations. Puis maintenant que les annonces ont été faites, est-ce qu'ils ne vont pas partir ailleurs? Est-ce qu'ils ne vont pas partir justement dans les régions un peu plus chaudes, les Caraïbes, la Martinique, là où les Français potentiellement pourront partir en vacances en février? Et donc si on nous annonce la semaine prochaine que les stations ouvrent au final, est-ce qu'il n'y aura pas aussi justement un manque de personnel pour pouvoir ouvrir, en tout cas au mieux, toutes les affaires de station, quoi. C'était le ras-le-bol général.
Ouais, dans ta lettre ouverte, tu dis des choses qui sont très justes. Déjà, tu te livres un titre personnel, tu te livres un titre en tant que femme. Et puis surtout, tu précises, tu poses une question très juste. Dans quel monde est-il moins risqué de prendre des transports en commun bondés plutôt que de monter assis sur un télésiège? Et c'est vrai que ça paraît difficilement compréhensible.
Surtout que ce qui s'est passé en station entre Noël et Jour de l'An, c'est qu'effectivement les stations n'étaient pas fermées, c'est uniquement les remontées mécaniques qui étaient fermées. Et sur certaines stations, notamment celles qui avaient la possibilité, enfin qui étaient un peu sur plusieurs étages, comme souvent dans les stations, il y a souvent des pistes qui sont accessibles, par exemple, du haut de la station et qui redescendent sur le cœur de la station. Et les stations, du coup, avaient en montagne, on est bêtes et cons, les lois. Étant donné qu'on avait le droit d'ouvrir les transports en commun, les stations ont mis en place des navettes.
Oui, je sais.
En fait, les gens étaient bondés dans les navettes avec leurs skis. pour remonter en haut de la station et pour pouvoir faire 1 minute 30 de descente quand même en ski.
Ouais, parce que je tiens à préciser que le tremplin olympique du Prat à Courchevel, je crois, est à 1450, qu'à 1650, il y a un deuxième niveau, et qu'à 1850, si je ne dis pas de bêtises, et puis il y a la Tania aussi. Donc oui, il y a eu plein de choses qui se sont passées comme ça.
Toutes ces pistes sont pas forcément accessibles et n'étaient pas forcément sécurisées. Donc des fois, effectivement, les gens peuvent, enfin, en tout cas, prenaient sûrement des risques. Mais sur certaines parties,
les pistes étaient damées, on peut le dire.
Je sais qu'un Saint-Sorlin-d'Arve, par exemple,
oui.
c'est pas une très grosse station par rapport à une grosse station des Trois-Vallées. C'est déjà une belle station, mais à Saint-Sorlin-d'Arve, et typiquement, les gens ont fait ça pour faire 1 minute 30 de descente à travers la station. À Méribel aussi, il y avait aussi la possibilité de redescendre au cœur de Méribel en partant du haut de la station. Voilà, il y avait quand même des pistes qui étaient aménagées pour pouvoir faire du ski de rando, pour pouvoir faire des balades en raquettes, pour pouvoir faire quand même pas mal d'activités. Et du coup, les gens descendaient sur les pistes sécurisées et d'autres trouvaient aussi le moyen de sortir un peu des sentiers battus pour se faire plaisir si la neige était bonne, quoi.
Ah ben complètement. Il y a même eu des photos quand même avec une calèche, un cheval qui remontait les skieurs en haut des pistes. Il y a même eu...
Ouais, pour les cours de débutants, oui.
Ah mais il y avait pas que les débutants qui faisaient. Non, mais il y avait des trucs, la montagne était un peu créative. Est-ce que c'est vraiment très dangereux? C'est une décision qui est lourde de conséquences le 20 janvier, s'ils décident de dire... tant pis, on arrête tout. Alors, pour information, ce matin, on avait la conférence de presse du Festival d'Avignon, du Festival OFF d'Avignon, qui a annoncé ses dates. Et Avignon a dit on ne pourra pas se permettre d'avoir une deuxième année d'annulation, c'est impossible. C'est toute la culture, c'est tout le sport, c'est toute la vie en société qui est remise en cause en ce moment.
Donc, c'est sûr, oui. Après, je sais que pour certains, ça va être très très dur de se relever. Certains hôtels ont déjà annoncé que de toute façon, même si l'ouverture était actée, ils n'ouvriraient pas.
Ah carrément.
Il y en a qui ont déjà dit que pour eux, de toute façon,
c'est trop compliqué à respecter les mesures sanitaires. D'accord.
Non, c'est trop compliqué d'engager des frais sur une ouverture. En fait, disons que d'ouvrir maintenant, ça vaut plus le coup, quoi. C'est sûr que si la saison est blanche, c'est catastrophique, mais on va dire que même si ça ouvre maintenant, la saison est déjà fortement impactée, quoi.
D'accord. Eh bien, c'est un autre monde qu'on est en train de vivre. Et puis toi qui a eu une médaille championne du monde, comme je dis, ça doit être vraiment déstructurant.
Mais encore une fois, je prêche pas pour ma propre petite personne. Ce que je pense, c'est sur le résultat final qu'aura cette crise, quoi. C'est tout ce que ça va amener.
Exactement.
Ce que je trouve complètement incohérent, c'est cette décision de mettre tout le monde dans le même sac. De pas du tout laisser les élus locaux qui connaissent très bien leur territoire prendre en charge un petit peu de l'organisation. Certains arrivent à fonctionner. La Suisse a ouvert les stations, alors avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas ils ont tenté le coup. Je dis pas qu'il faut que tout le monde doit aller skier si les stations ouvrent. Si quelqu'un est une personne à risque, si on a forcément, enfin si on le sent pas cette année, je force personne à aller skier, mais laisser travailler ceux qui veulent travailler, laisser les gens pouvoir partir à la montagne et profiter de pouvoir être dans les grands espaces et d'avoir des vacances à peu près correctes. Cet été, les stations françaises des Deux Alpes, de Tignes et de Val d'Isère, qui ont la chance d'avoir encore des glaciers, ont accueilli des skieurs. sur leur glacier. Ils ont mis en place des. Alors, c'est souvent des clubs et des sportifs de haut niveau qui ont eu droit à ces petits moments de glisse. Mais en tout cas, ça a été un bon test pour montrer ce qui marchait, pour améliorer ce qui marchait moins bien. Mmh. Les gens skiaient avec des masques, les gens prenaient leur distance. Enfin. De ce que je sais, il n'y a pas eu des clusters en station cet été, alors qu'il y a eu énormément de gens qui sont montés en montagne et qui ont changé leurs habitudes pour justement venir un peu plus faire de la randonnée, venir un peu plus profiter d'un endroit qui ne connaissaient pas forcément, qui n'était pas dans leurs habitudes de venir. Et justement, tout ce qui a été mis en place cet été, ça aurait très bien pu. Enfin, en tout cas, ça a servi aux élus locaux et aux acteurs de la montagne pour préparer tout un protocole pour essayer d'avoir un protocole d'ouverture sanitaire en début d'hiver qui aurait été tout à fait correct et qui a en plus été validé par les dirigeants de l'État. Donc voilà, tout ça, le fait qu'on n'ait même pas essayé de le tenter, pour moi, ça me désespère. Je me dis, à force de nous infantiliser, et de ne plus permettre aux gens d'avoir le choix de faire sans faire en dehors des lois ou quoi que ce soit, mais en tout cas de faire ce que bon leur semble. On est très conscient que le virus est là. Je pense que les gens, oui, il y a une petite catégorie qui va tout le temps vouloir un peu braver les lois et vouloir faire comme il veut. Et je pense que la majorité des gens qui seraient montés en station cet hiver, ils auraient très bien compris qu'il fallait essayer de prendre un peu plus de place dans les cabines, qu'il fallait essayer de prendre un peu plus de place dans les queues des remontées mécaniques. On a vu en Autriche que ça marchait très bien de mettre des signalisations visuelles en place. Il y aurait eu de toute façon moins de monde parce que toute la clientèle étrangère n'aurait pas été là cet hiver. Donc voilà, à mon sens, je ne suis pas politique et... Et heureusement, je suis pas dans leurs bottes, ça doit être très compliqué à gérer, mais à mon sens, je pense qu'il y avait quand même des choses à tenter qui ont même pas été essayées, quoi.
D'accord. Juste avant de te poser une dernière question qui est importante et qui est informative, parce que je voudrais juste signaler que c'est très rare quand on le fait, mais nous n'avons strictement fait aucun commentaire sur le podcast qui va être mis en ligne dans quelques minutes, et nous avons simplement copié la lettre que tu as faite. On n'a aucun commentaire à faire parce que je trouve qu'elle est tellement juste et tout. Moi, j'ai une dernière question informative parce que je suis un peu basique. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Rouvrir une station de ski, c'est redémarrer rouvrir les caisses, revendre les forfaits et redémarrer, damer les pistes la nuit et puis mettre en marche les remontées mécaniques. Je comprends pas pourquoi ça prendrait autant de temps. Je suis un peu basique, tu m'excuses, mais j'ai l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est reparti.
Je pense que ça prendrait un peu de temps au niveau du personnel parce que actuellement. Il y a seulement une petite partie du personnel qui a été réengagé. En général, les stations de ski fonctionnent avec une partie du personnel à l'année, mais c'est vraiment une toute petite partie du personnel qui peut gérer l'entretien annuel des remontées mécaniques hiver comme été, qui gère les forfaits hiver comme été. Donc une petite partie de ce personnel au niveau des bureaux, tout ça fonctionne.
D'accord.
Par contre, en début d'hiver, les remontées mécaniques ne réengagent qu'un peu au coup par coup. C'est-à-dire que sur la première semaine d'ouverture, ils vont tout de suite reprendre les saisonniers qui sont récurrents. Donc, c'est-à-dire les personnes qui reviennent déjà depuis un ou deux ans sur la station. Et ensuite, au fur et à mesure des semaines, donc avec l'augmentation de la clientèle, ils réengagent de plus en plus pour arriver... presque une totalité du personnel juste avant les vacances de Noël, quoi. Et là, je pense, j'en suis pas sûre, je suis pas non plus dans les bureaux des stations de ski, mais j'imagine qu'il y a toute une partie du personnel qui est un peu en stand-by.
D'accord.
Qui pour l'instant, on sait même pas s'ils sont déjà arrivés sur la station parce que tous ces saisonniers, s'ils arrivent en station, il faut qu'ils se logent, il faut qu'ils payent leur loyer.
D'accord.
Donc s'ils n'ont pas de salaire à côté, ils ne vont peut-être pas attendre ici de pouvoir être disponible pour les stations de ski. Donc c'est tous ces saisonniers dont je parlais tout à l'heure qui peut-être ont trouvé du travail ailleurs pour justement pas avoir une saison blanche de leur côté, quoi.
D'accord. Bah, il n'y a plus qu'à espérer que le 20 janvier, ils disent que, comme tu le dis, la vie, ça n'est pas d'attendre que la mort arrive tranquillement sans rien faire. C'est faire en sorte que chaque moment compte, quitte à prendre des risques. Il n'y a plus qu'à espérer ça. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir donné ces quelques minutes. Championne du monde de descente, Marion Roland. Merci à toi en tout cas.
Merci à vous.